Et voici donc une seconde nouvelle intitulée « Dans la dune » d'Isabelle Eberhardt. C'était sur la fin de l'automne 1900, presque en hiver déjà. Je campais alors avec quelques bergers de la tribu de Rebaïa, dans une région déserte entre toutes, au sud de Talbet Geblia et sur la route de l'Oued à Ouargla. Nous avions un troupeau de chèvres assez nombreux, et quelques malheureux chameaux maigres et épuisés, épave de l'expédition d'Ibn Salah qui a dépeuplé de chameaux le Sahara pour des années, car la plupart ne sont pas revenus des convois lointains d'El Goléa et d'Igli. Nous étions alors 8, en nous comptant, mon serviteur Ali et moi. Nous vivions sous une grande tente basse, en poils de chèvre, que nous avions dressée dans une petite vallée entre les dunes. Après les premières petites pluies de novembre, l'étrange végétation saharienne commençait à renaître. Nous passions nos journées à chasser les innombrables lièvres sahariens et surtout à rêver en face des horizons moutonnants. Le calme et la monotonie, jamais ennuyeuses. Cependant, de cette existence au grand air provoquait en moi une sorte d'assoupissement intellectuel et moral très doux, un apaisement bienfaisant. Mes compagnons étaient des hommes simples et rudes, sans grossièreté pourtant, qui respectaient mon rêve et mes silences, très silencieux même d'ailleurs. Les jours s'écoulaient paisibles, en une grande quiétude, sans aventure et sans accident. Cependant, une nuit que nous dormions sous notre tente, roulée dans nos burnous, un vent du sud violent s'éleva et souffla bientôt en tempête, soulevant des nuages de sable. Le troupeau bêlant et rusé réussit à se tasser si près de la tente que nous entendions la respiration des chèvres. Il y en eut même quelques-unes qui pénétrèrent dans notre logis et qui s'y installèrent malgré tout avec l'effronterie drôle propre à leur espèce. La nuit était froide et je dus accueillir, sans trop de mécontentement, un petit chevreau qui s'obstinait à se glisser sous mon burnous et se coucher contre ma poitrine, répondant par des bourrades de son front têtu à toutes mes tentatives d'expulsion. Fatigués d'avoir beaucoup erré toute la journée, nous nous endormîmes bientôt, malgré les hurlements lugubres du vent dans le dédale des thunes et le petit bruit continu marin du sable qui pleuvait sur notre tente. Tout à coup, nous fûmes à nouveau réveillés en sursaut, sans pouvoir, au premier moment, nous rendre compte de ce qui arrivait, mais écrasés, étouffés sous un poids très lourd. Une rafale plus violente avait chaviré notre tente, nous ensevelissant sous ses ruines. Il fallut sortir, ramper à plat, ventre, péniblement, dans la nuit noire où le vent froid faisait fureur sous un ciel d'encre. Impossible, ni de remonter la tente dans l'obscurité, ni d'allumer notre petite lanterne. Il pouvait être 3 heures déjà, et nous préférâmes nous coucher, maussades, à la belle étoile, en attendant le jour. Ali dut encore extraire à grand-peine quelques couvertures et quelques burnous de dessous la tente, et il fallut aussi sauver les chèvres qui gémissaient et se débattaient furieusement. Étouffant, dans mon burnous, sur lequel le sable continuait de tomber en pluie, tenu éveillé par les hennissements de frayeur et les ruades de mon pauvre cheval, attaché à un piquet, bousculé par des chèvres inquiètes, je ne parvins plus à me rendormir. Le vent avait cessé presque tout à fait. Ali était occupé à allumer un grand feu de broussailles. Nous nous assîmes tous autour du bienfaisant brasier, transi et courbaturé. Seul Ali conservait sa bonne humeur habituelle, nous plaisantant sur nos airs de déterrés. Le jour se leva, limpide et calme, sur le désert, où la tourmente de la nuit avait laissé une infinité de petits sillons gris, comme les rides d'une tempête sur le sable. L'idée me vint d'aller faire un temps de galop dans la plaine qui s'étendait au-delà de la ceinture de dunes, fermant notre vallée. Ali resta pour reconstruire la tente et mettre en ordre notre petit ménage ensablé et dispersé durant la nuit. Il me recommanda cependant de ne pas trop m'éloigner du camp. Mais bah, dès que je fus dans la plaine, Je lâchai la bride à mon fidèle Sauf, qui partit à toute vitesse, énervé lui aussi par la mauvaise nuit qu'il avait passée. Longtemps, nous courûmes ainsi à une vitesse vertigineuse, ivre d'espace, dans le calme serein du jour naissant. Enfin, mettant à grand-peine mon cheval au pas, je me retournai et je vis que j'étais très loin déjà des dunes. Sans aucune hâte de rentrer au campement, l'idée me vint de passer par les collines qui ferment la plaine. Je m'engageai donc dans un détal de monticules de plus en plus élevés en prenant le chemin de l'ouest. Il y avait là des vallées semblables à la nôtre et pour ne pas perdre trop de temps, je laissai trotter Sauf dans ces endroits plus plats. Peu à peu, le ciel s'était de nouveau couvert de nuages et le vent commençait à tomber. Sans la bourrasque de la nuit qui avait séché et déplacé toute la couche superficielle du sable, un vent aussi faible n'eût pu provoquer aucun mouvement à la surface du sol. Mais la terre était réduite à l'état de poussière presque impalpable et le sable continuait doucement à couler des dunes escarpées. Je remarquai bientôt que mes traces disparaissaient très vite. Après une heure, je commençais à être étonnée de ne pas encore être arrivée au camp. Il était déjà assez tard et la chaleur devenait lourde. Pourtant, je remontais bien vers l'ouest. Enfin, je finis par m'arrêter, comprenant que j'avais fait fausse route et que j'avais dû dépasser le campement. Mais je demeurais perplexe. Où fallait-il me diriger? En effet, je ne pouvais pas savoir si je me trouvais au-dessus ou au-dessous de la route, c'est-à-dire si j'avais passé au nord ou au sud du camp. Je risquais donc de m'égarer définitivement. Cependant, je m'ai décidé à prendre résolument la direction du nord, la moins dangereuse dans tous les cas. Mais là encore, je n'aboutis à rien. Après avoir marché pendant une heure, alors je redescendis vers le sud. Il était 3 heures après-midi déjà et ma mésaventure ne m'amusait plus. Je n'avais qu'un pain arabe dans le capuchon de mon burnous et une bouteille de café froid. Je commençais à me demander ce que j'allais devenir si je ne retrouvais pas mon chemin avant la nuit. Laissant mon souffle dans une vallée, je grimpai sur la dune la plus élevée de la région. Autour de moi, de tous les côtés, je ne vis que la houle grise des monticules de sable. Et je ne parvenais pas à comprendre comment j'avais pu, en si peu de temps, m'égarer à ce point. Enfin, ne voulant plus continuer à errer sans but, craignant d'être prise par la nuit dans un endroit stérile où mon cheval, déjà privé d'eau, ne trouverait même pas d'herbe, je me mis à la recherche d'une vallée commode pour passer la nuit. Demain, dès l'aube, je me mettrai en route vers le nord, pensais-je, et je gagnerai la route de Taïbet. Je découvris un vallon profond et allongé, où une végétation plus touffue avait poussé, étonnamment verte. Je débarrassai Souf de son harnachement et je le lâchai, allant moi-même explorer mon île de Robinson. Au milieu d'un espace découvert, je trouvai un tas de cendres, à peine mêlées de sable, et quelques os de lièvre. Des chasseurs avaient dû passer la nuit là. Peut-être reviendraient-ils? Ces chasseurs du Sahara sont des hommes rudes et primitifs, vivant à ciel ouvert, sans résidence fixe. Quelques-uns laissent leur famille très loin dans l'Exour, d'autres sont de véritables enfants des sables, errant avec femmes et enfants, mais ceux-là sont rares. Leur vie à tous est aussi libre et aussi peu compliquée que celle des gazelles du désert. Parmi ces chasseurs, il y a bien quelques irréguliers, fuyant dans les solitudes la justice des hommes. Cependant, dans ces régions encore assez voisines des villes et des villages, les dissidents, comme on les appelle en langage administratif, sont rares. Et je souhaitais de voir apparaître les chasseurs dont j'avais retrouvé les traces, afin de sortir au plus vite de la situation ridicule où je m'étais mise. Dans quelle transe devaient être mes compagnons, surtout le fidèle Ali? Un hennissement joyeux me tira de ces réflexions. Mon cheval s'était approché d'un fourré très épais et très vert, et la tête enfoncée dans les branches semblait flairer quelque chose d'insolite. Entre les buissons, il y avait un de ces hassis nombreux du Sahara, perdus souvent en dehors de toutes les routes, puis étroits et profonds que seuls les guides connaissent. La végétation presque luxuriante de la vallée s'expliquait par la présence de cette eau à une faible profondeur. Je me mis en devoir de puiser, au moyen de ma bouteille attachée au bout de ma ceinture. Soudain, j'entendis une voix qui disait tout près derrière moi « Que fais-tu là, toi ?» Je me retournai. Devant moi se tenaient trois hommes bronzés, presque noirs, en loque, portant leurs maigres bagages dans des sacs de toile et armés de longs fusils à pierre. « J'ai soif. Tu t'es égaré ?» Je campe, non loin d'ici, avec les rebayas, des soifas, des bergers. Tu es musulman ? Oui, grâce à Dieu. Celui qui m'avait adressé la parole était presque un vieillard. Il étendit la main et toucha mon chapelet. Tu es de Sidi Abdelkader Djilani. Alors nous sommes frères. Nous aussi, nous sommes Qadriya. Dieu soit loué, dis-je. J'ai éprouvé une joie intense à trouver en ces nomades des confrères. Entre adeptes de la même confrérie, l'aide mutuelle et la solidarité sont de règle. Eux aussi portaient, en effet, le chapelet des Qadriya. Attends, nous avons une corde et un bidon. Nous ferons boire ton cheval et tu passeras la nuit avec nous. Demain matin, nous te ramènerons à ton camp. Tu t'es beaucoup éloigné vers le sud. Tu as passé le camp d'Erbaya et maintenant, en prenant par des raccourcis, il faut au moins 3 heures pour y arriver. » Le plus jeune d'entre eux se mit encore à rire. « Tu es dégourdi, toi. De quelle tribu êtes-vous ? » ?»« Moi et mon frère, nous sommes des Oulatset de Taïbet Gebliya et celui-là, Ahmed Boujemha, est Chambi, des environs de Barassouf. Son père avait un jardin Elouette dans la colonie des Chamba, qui est au village d'El Laqab. Il s'est sauvé, le pauvre. Pourquoi ? À cause des impôts. Il est parti à Insalah avec notre cher Sidi Mohamed Tayeb. Quand il est revenu, il a trouvé sa femme morte, emportée par l'épidémie de typhus, et son jardin privé de toute culture. Alors, il a gagné le désert à cause des impôts. Le jeune Salhi qui parlait ainsi avait attiré mon attention par la primitivité de ses traits et l'éclat sournois de ses grands yeux fauves. Il eût pu servir de type accompli de la race nomade, fortement métissée, d'arabe asiatique, qui est la plus caractéristique du Sahara. Ahmed Boujemha, maigre et souple, semblait être son aîné autant qu'on en put juger, car la moitié de sa face était voilée de noir, à la façon des Touaregs. Quant au plus âgé, il avait une belle tête de vieux coupeur de route, aquiline et sombre. Ahmed Boujemha portait, pendu à sa ceinture, 2 superbes lièvres. Il s'écarta un peu du puits, et après avoir dit « Bismillah », il se mit à vider son gibier. Le soleil avait disparu derrière les dunes et les derniers rayons roses du jour glissaient au ras du sol, entre des buissons aux feuilles pointues et des jujubiers. Les touffes de drine semblaient d'or dans la grande lueur rouge du soir. Selem, l'aîné des deux frères, s'écarta de notre groupe et, étendant son burnous loqueteux sur le sable, il commença à prier, grave et comme grandi. « Vous n'avez point de famille ?» demandai-je à Hamma, pendant que nous creusions un trou dans le sable pour la cuisson des lièvres. « Selem a sa femme et ses enfants à Taïbet. Moi, ma femme est dans le jardin de Remirma, dans l'Oued Rir, chez sa tante. Ne t'ennuies-tu pas loin de ta famille ? Le sort est le sort de Dieu. Bientôt, j'irai chercher ma femme. Quand les enfants de Selem seront grands, ils chasseront comme leur père, Inch'Allah. » Amin. Tout me charmait et m'attirait dans la vie libre et sans souci de ces enfants du grand Sahara, splendide et morne. Après avoir lié en boule les lièvres, nous les mîmes avec leur fourrure au fond du trou, sous une mince couche de sable. Puis nous allumâmes par-dessus un grand feu de broussailles. « Alors, tu t'es marié chez les Rouara ?» Hamrasri fit un geste vague. C'est toute une histoire. Tu sais que nous autres, Arabes du désert, nous ne nous marions guère en dehors de notre tribu. le roman de Hamasri piquait ma curiosité. Voudrait-il seulement me le conter ? Cette histoire devait être simple, mais empreinte du grand charme mélancolique de tout ce qui touche au désert. Après le souper, Slem et Boudjemra s'endormirent bientôt. Hamasrir, à demi couché près de moi, tira son petit sac en filali pour le kif et sa petite pipe. Je portais moi aussi dans la poche de ma gandoula ces insignes du véritable soufi. Nous commençâmes à fumer. Hamma, raconte-moi ton histoire. Pourquoi ? Pourquoi t'intéresses-tu à ce qu'ont fait des gens que tu ne connais pas ? Je t'adopte, mon frère, au nom d'Abdelkader Jilani. Moi aussi. Et il me serra la main. Comment t'appelles-tu ? Mahmoud ben Abdallah Saadi. Écoute, Mahmoud, si je ne t'adoptais pas, moi aussi, pour frère, si nous ne l'étions pas déjà par notre shir et votre chapelet, et si je ne voyais pas que tu es un taleb, je me serais mis fort en colère au sujet de ta demande, car il n'est pas d'usage, tu le sais, de parler de ma famille. Mais écoute, et tu verras que le mektoub de Dieu est tout-puissant, que rien ne saurait le détourner. 2 années auparavant, Hamasri chassait avec Selem dans les environs du bord de Sahel Hamra, dans la région des grands chottes sur la route de Bisra et l'Oued. C'était en été. Un matin, Hamasri fut piqué par une lefha, une petite vipère à cornes, et courut au bord. La vieille belle-mère du gardien, une ririya originaire de l'Oued Rir, savait guérir toutes les maladies. Celles du moins que Dieu permet de guérir. Le gardien était parti pour Al-Oued avec son fils et le bord était resté à la garde de la vieille Mansoura et de sa belle-fille déjà âgée, Tber. Vers le soir, Hamasrir ne souffrait presque plus et il quitta le bord pour aller rejoindre son frère dans le chot Boudjeloud. Mais il avait un peu de fièvre et il voulut boire. Il descendit à la fontaine, située au bas de la colline rougeâtre et dénudée de Sahel Hamra. Là, il trouva l'aînée des filles du gardien, Saadia, qui avait 13 ans et qui, femme, déjà, était belle sous ses haillons bleus. Et Saadia sourit au nomade et longuement, ses grands yeux roux le fixèrent. « Dans 15 jours, je viendrai demander ta main à ton père. » Elle hocha la tête. « Il ne voudra jamais ? Tu es trop pauvre ? Tu es un chasseur. Je t'aurai quand même, si Dieu en a décidé ainsi. Maintenant remonte au bord et garde-toi pour Hamrasrir, pour celui que Dieu t'a promis. Amin. » Et lentement, courbée sur sa loute gerba en peau de bouc pleine d'eau, elle reprit le chemin escarpé de son bord solitaire. Hamrasrir ne parla point à Selem de cette rencontre, mais il devint songeur. Il ne faut jamais dire ses projets d'amour. « Cela porte malheur, précisa-t-il. » Tous les soirs, quand le soleil embrasait le désert ensanglanté et décliné vers l'Oued, Rir Salé, Saadia descendait à la fontaine pour atteindre celui que Dieu lui avait promis. Un jour, qu'elle était sortie à l'heure ardente de midi pour abriter son troupeau de chèvres, elle crut défaillir. Un homme, vêtu d'une longue gandoura et d'un burnous blanc, armé d'un long fusil à pierre, montait vers le bord. En hâte, elle se retira dans un coin de la cour où était leur humble logis, et là, tremblante, elle invoqua tout bas Jilani, l'émir des saints, car elle était aussi, elle, de ses enfants. L'homme entra dans la cour et appela le vieux gardien. « Abdallah ben al-Hajj Sa'ad, dit-il, mon père était chasseur. Il appartenait à la tribu des Shorfa ou Latsir, de la ville de Taïbat Gebliya. Je suis un homme sans tare et dont la conscience est pure, je le sais. Je viens te demander d'entrer dans ta maison. Je viens te demander ta fille. » Le vieillard fronça les sourcils. « Où l'as-tu vu ? Je ne l'ai pas vu. » Des vieilles femmes d'El-Oued m'en ont parlé. Telle est la destinée. Par la vérité du Coran, Auguste, autant que je vivrai, jamais un vagabond n'aura ma fille. Longuement, Hamasri regarda le vieillard. Ne jure pas sur les choses que tu ignores. Ne joue pas avec le faucon. Il vole dans les nuages et regarde en face le soleil. Évite les larmes à tes yeux que Dieu fermera bientôt. J'ai juré. Chouf Rabbi, dit Hammasrir. Et sans ajouter un mot, il partit. Sir Abdallah, indigné, entra dans sa maison et s'adressant à Saadia et Mbarka, il dit « Laquelle de vous deux, chienne, a laissé voir son visage vagabond ?» Les deux jeunes filles gardèrent le silence. « Sir Abdallah, » répondit pour elle l'aïeul vénéré, « le vagabond est venu le mois dernier se faire panser pour une morsure de l'Eufra. Ma fille Tbir, qui est âgée, m'a aidée. Le vagabond n'a vu aucune des filles de Tbir. Nous sommes vieilles, le temps du hijab est passé pour nous. Nous avons soigné le vagabond dans le sentier de Dieu. Garde-les et elles ne sortent plus. » Saadia, l'âme en deuil, continua pourtant à attendre obstinément le retour de Hammasrir, car elle savait que si vraiment Dieu le lui avait destiné, personne ne pouvait les empêcher de s'unir. Elle aimait Hammasrir et elle avait confiance. Près d'un mois s'était écoulé depuis que le chasseur était monté au bord pour demander Saadia et il ne reparaissait plus. Il était bien près cependant, attardé dans la région des Chottes et chaque nuit, les chiens féroces de Sahel Hamra aboyaient. Lui aussi l'avait juré. Un soir, se relâchant un peu de sa surveillance farouche, comme Tbir était malade, si Abdallah ordonna à Saadia de descendre à la fontaine sans s'attarder. Il était déjà tard et la jeune fille descendit, le cœur palpitant. La pleine lune se levait au-dessus du désert, baignée d'une transparence aussi bleue que peut l'être la nuit. Dans le silence absolu, les chiens avaient des roquements furieux. Pendant qu'elle remplissait sa garba, les bras dans l'eau du bassin, Saadia vit passer une ombre entre les figuiers du jardin. Saadia, louange à Dieu! Hammasrir l'avait saisie par le poignet et l'entraînait. « J'ai peur, j'ai peur !» Elle posa sa main tremblante dans la main forte du nomade et ils se mirent à courir à travers le chaud Boudjeloul dans la direction de l'oued. Et quand elle disait « J'ai peur, arrête-toi !» il la soulevait irrésistiblement dans ses bras car il savait que cette heure lui appartenait et que toute la vie était contre lui. Il fuyait. Et déjà les aboiements des chiens s'étaient lassés. Le vieillard, surpris et irrité du retard de sa fille, sortit du bord et l'appela à plusieurs reprises, mais sa voix sans réponse se perdit dans le silence lourd de la nuit. Un frisson glaça les membres du vieillard. En hâte, il alla chercher son fusil et descendit. La gamelle flottait sur l'eau et la garba vide traînait à terre. « Chienne ! Elle s'est enfuie avec le vagabond ! La malédiction de Dieu soit sur eux !» Mais il rentra, le cœur irrité, sans une larme. Sans une plainte. Celui qui engendre une fille devrait l'étrangler aussitôt après sa naissance, pour que la honte ne force pas un jour la porte de sa maison, dit-il en rentrant chez lui. Femme, tu n'as plus qu'une seule fille, mais celle-ci est même de trop. Tu n'as pas su garder ta fille. Les deux vieilles et Mbarka commencèrent à pleurer, à se lamenter comme sur le cadavre d'une morte. Mais Sir Abdallah leur imposa le silence. Cependant, les deux amants avaient fui longtemps à travers la plaine sérine. « Arrête-toi, supplia Saadia. Mon cœur est fort, mais mes jambes sont brisées. Mon père est vieux, il est fier. Il ne nous poursuivra pas. » Ils s'assirent sur la terre salée. Et Hammasrir se mit à réfléchir. Il avait tenu parole. Saadia était à lui. Mais pour combien de temps ? Il résolut enfin, pour échapper aux poursuites, de la mener à Taïbet et de là, de l'épouser devant la Jumra de sa tribu, sans acte de mariage. Saadia, lasse et apeurée, s'était couchée près de son maître. Il se pencha sur elle et calma d'un baiser son cœur encore bondissant. Quatre nuits durant, ils marchèrent, mangeant les dattes et la mela de Hammasrir. Pendant la journée, par crainte d'Aïra et des Spahi d'El-Oued, ils se tenaient cachés dans les dunes. Enfin, vers l'aube du cinquième jour, ils virent se profiler au loin les murailles grises et les coupoles basses de Taïbet Gebliya. Hammasrir mena Saadia dans la maison de ses parents et leur dit « Celle-ci est ma femme. Gardez-la, aimez-la à l'égal de Fatma Zahra, votre fille. » Quand ils furent devant l'assemblée de la tribu, Hammasrir dit à Saadia « Pour que Dieu bénisse notre mariage, il faut que ton père nous pardonne. Sans cela, lui, ta mère et ton aïeul qui m'a été secourable pourraient mourir avec le cœur fermé sur nous. Je te mènerai vers ton pays, chez ta tante Oumelaz. Quant à moi, je sais ce que j'ai à faire. » Le lendemain, dès l'aube, il fit monter Saadia strictement voilée sur la mule de la maison et ils descendirent vers l'Ouadrir. Ils passèrent par Mesgarin Kedina pour éviter Tougourt et ils furent bientôt rendus dans les jardins humides de Mirma. Oumelaz était vieille. Elle exerçait la profession de sage-femme et de guérisseuse. On la vénérait et même certains hommes parmi les Rouaras superstitieux la craignaient. C'était une Riria bronzée, avec un visage de momie dans le scintillement de ses bijoux d'or, maigre et de haute taille, sous ses longs voiles d'un rouge sombre, ses yeux noirs, où le creux jetait une ombre inquiétante, avaient conservé leur regard sévère et silencieuse. Elle écouta Hamrasrir et lui ordonna d'écrire en son nom une lettre au père de Saadia. « Si Abdallah pardonnera, » dit-elle, avec une assurance étrange. D'ailleurs, il ne durera plus longtemps. Hamrasrir entra dans l'oasis et découvrit un taleb qui, pour quelques sous, écrivit la lettre. « Louange à Dieu seul, le salut et la paix soient sur l'élu de Dieu. Ô vénérable, à celui qui suit le sentier droit et fait le bien dans la voie de Dieu, le très pieux, le très sûr, le père et l'ami, Si Abdallah Belhad Sahed, au bord de Stah al-Hamriya, dans le souffle, le salut soit sur toi, et la miséricorde de Dieu, et sa bénédiction pour toujours. Ensuite, sache que ta fille Saadia est vivante et en bonne santé, Dieu soit loué, et qu'elle n'a d'autre désir que celui de se trouver avec toi et sa mère, et son aïeul, et sa sœur, et son frère Si Mohammed, en une heure proche et bénie. Sache encore que je t'écris ces lignes sous l'ordre de ta belle-sœur, Lella Oumelaz bint Maktoub Rir, et que c'est dans la maison de celle-ci qu'habite ta fille. Apprends que j'ai épousé selon la loi de Dieu ta fille Saadia, et que je viens te demander ta bénédiction, car tout ce qui arrive, arrive par la volonté de Dieu. Après cela, il n'y a que la réponse prompte et propice, et le souhait de tout le bien, et le salut soit sur toi et ta famille, de la part de celui qui a écrit cette lettre, ton fils et le pauvre serviteur de Dieu, Hamrasrir ben Abdurrahman Sharif. » Quand cette lettre parvint au vieil Abdallah illettré, se rendit à Guémar, à la Zawiya de Sidi Abd al-Khader. Al-Muqaddam lui lut la lettre, puis le voyant fort perplexe, lui dit « Celui qui est près d'une fontaine ne s'en va pas sans boire. Tu es près de notre chir et tu ne sais que faire. Va-t'en lui demander conseil. » Abdallah consulta donc le chir qui lui dit « Tu es vieux. D'un jour à l'autre, Dieu peut te rappeler à lui, car nul ne connaît l'heure de son destin. Il vaut mieux laisser comme héritage un jardin prospère qu'un monceau de ruines. » Alors, obéissant aux descendants de Dilani et de son représentant sur la terre, Si Abdallah ploya sous sa doctrine et prit le Muqaddam de composer une lettre de pardon pour le ravisseur. Et nous t'informons par la présente que nous avons pardonné notre fille Saadia. Dieu lui accorde la raison et que nous appelons la bénédiction du Seigneur sur elle pour toujours. Amin. Et le salut soit sur toi, de la part du pauvre, du faible serviteur de Dieu, Abdallah Belhadj. » La lettre partit. Oumelaz, silencieuse et sévère, parlait peu à Saadia. Elle passait son temps à composer des breuvages et à deviner le sort par des moyens étranges, se servant de moplates de moutons tués à la fête du printemps, de mares de café, de petites pierres et des entrailles des bêtes fraîchement saignées. « Abdallah, pardonne », avait-elle dit à Hamrasrir, après avoir consulté ces petites pierres, « mais il ne durera pas plus longtemps, son heure est proche. » Saadia était devenue songeuse. Un jour, elle dit à son époux, « Mène-moi dans le souffle, je dois revoir mon père avant qu'il meure. » Attends sa réponse. La réponse arriva. Hamrasri fit de nouveau monter Saadia sur la mule de la maison et ils prirent la route du nord-est traversant le Chot Merwan des Sujets. Le cinquième jour, Hamrasri ramena sa femme Armimna. Le mois suivant, Anjeb, une lettre de Sahel Hamriya, annonçait à la vieille Umraz que son beau-frère venait d'entrer dans la miséricorde de Dieu. Tous les mois, je descends Armimna pour voir ma femme, dit Hamrasri en terminant son récit. Dieu ne nous a pas donné d'enfants. Un instant très pensif, il garda le silence. Puis il ajouta plus bas, avec un peu de crainte, « Peut-être est-ce parce que nous avons commencé dans le haram ?» Oum al-Az le dit, elle sait, il était très tard déjà, et les constellations d'automne avaient décliné sur l'horizon. Un grand silence solennel régnait au désert. Nous étions roulés dans nos burnous près du feu éteint et nous rêvions. Lui, le nomade, dont l'âme ardente et vague, était partagé entre la jouissance de sa passion triomphante, la crainte des sorts, la peur des ténèbres, et moi le solitaire que son idylle avait bercé, et je songeais au tout-puissant amour qui domine toutes les âmes à travers le mystère des destinées.
C'était Oxymore, avec des nouvelles d'Isabelle Eberhardt, lues par Leïla Boutaleb.